On parle des fins.
Si vous souhaitez, c'est une bonne journée apparemment.
Ah, c'est une mauvaise journée.
Mauvaise.
Parce que les gens n'ont pas pris le temps d'expliquer aux femmes comment le 8 mars est né. Si elles sont au courant, elles devraient même pas rire. Et puis porter le deuil avec ces milliers de femmes qui dans les usines avaient décidé de marcher pour leurs droits. C'était aux États-Unis. Des femmes qui travaillent dans les usines, aux côtés des hommes, dans des conditions inhumaines, exposées à tout, et payées moins même que les hommes. Et ils faisaient plus de tâches. Et elles ont protesté. C'était d'où est partie la première marche des femmes. Il y a eu une autre marche, c'était le 6 mars. Et puis il y avait une autre marche, celle de Mexico, le 7 mars. Et donc c'est après plusieurs concertations que les Nations Unies ont décidé de faire du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et là, c'est le déclic. On sait qu'aujourd'hui, les femmes. Moi, quand on parle des femmes, je suis vraiment peinée parce que si on est dans un État, on est dans le monde et que nous restons dans la globalité, on devrait s'en tenir à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple. Toutes les lois nationales, internationales, même nos us et coutumes, ont toujours donné une place prioritaire à la femme. Parce que quand tu prends des sociétés traditionnelles, par exemple, comme au Tchad, où la tradition a un impact sur l'exercice du droit de la femme est reléguée toujours au second rang. La femme est la côte de l'homme, elle assiste l'homme. Sinon, on dit que les femmes ne parlent pas haut, elles ne parlent pas fort en présence des hommes. L'homme peut être au milieu de nous, avoir 2 ans, mais la femme n'a pas le droit de parler très fort, très haut. La femme est appelée à renfermer, c'est pour dire que elle est appelée à se refermer sur elle, faire taire toutes ses envies, toutes ses peines, toutes ses douleurs et même ses joies, elle doit les faire taire. Donc en fait, elle n'a pas de moyens d'expression. Mais c'est paradoxal parce que dans nos villages, nos chefs de village, on dit qu'un chef, il est fort. Il est un guerrier. Mais ce chef, il est fort, il est un guerrier. Parce que le soir, quand il va dormir, toutes les histoires du village, il les discute avec la reine. C'est la reine qui lui donne les solutions. Quand il arrive, il apparaît devant les notables. Il dit, la nuit m'a porté conseil. La nuit l'a porté conseil. La nuit, il fait allusion à la femme. Sans pour autant reconnaître que l'idée vient de la femme et lui donner la marque d'attention ou bien reconnaître tout simplement qu'elle y est pour quelque chose. Donc déjà, être femme au Tchad, il y a 5 difficultés à elle. Il y a un exercice que nous faisons toujours pour les formations syndicales des femmes, parce que chez nous, on a pour toutes les centrales syndicales ou bien les fédérations ou les syndicats locaux, on met en place un groupe des femmes et un groupe de jeunes. On appelle ça le comité des femmes et le comité des jeunes. Il y a toujours une image qui vient. On met des athlètes à la ligne de départ, la ligne de démarcation. À vos marques, prêts, vous devrez partir. Mais sur la ligne de démarcation de départ, devant la femme, on met le seau d'eau, on met le panier pour le marché, on met la roue, on met un bébé qui est en train de pleurer. On met l'homme qui est en train de vociférer sur elle. On met les habits. les assiettes, le balai pour le ménage, le seau pour puiser l'eau. Donc, elle doit prendre le départ avec les hommes au même moment. Et pour que, à l'arrivée, ils arrivent, soit, si elle veut gagner, il fait qu'elle soit la première après lui avoir mis tous les obstacles devant elle. Mais c'est injuste. Ce n'est pas normal. Pourquoi l'homme a des facilités pour pouvoir s'épanouir et que pour la femme, on lui demande de faire trop? Et pourquoi elle en a fait assez? On a fait une étude au Tchad pour les syndicats dans le cadre de l'équité salariale. Nous avons voulu, au travers de cette étude, analyser les disparités dans le traitement salarial ou les avantages sociaux aux femmes dans les secteurs publics. On a choisi le secteur de la santé. Quels sont ces avantages ou bien quelles sont les disparités qui existent entre les droits des femmes et les droits des hommes? Cette étude, on l'avait menée avec l'appui de l'International des services publics. Donc, on l'a menée dans un hôpital, l'hôpital Mère et Enfants en N'Djamena. Nous avons rencontré une femme infirmière qu'on a enquêtée. Il demande à la dame: Madame, aujourd'hui vous êtes infirmière, mais dans 5 ans, vous allez toujours rester infirmière ou bien vous allez faire une spécialité? Elle dit que non. Elle a déjà trop de problèmes. En plus d'être directrice adjointe, elle est une mère. Elle a des enfants qu'il faut qu'elle s'occupe d'eux. Elle n'a pas de ménagère. Elle n'a pas de nounou. Elle a une épouse parce qu'elle doit s'occuper de son mari. Donc faire le repas, tout ce qu'il y a pour le ménage, elle doit le faire. Elle est chef. Donc, elle est directrice adjointe dans l'hôpital. Donc, quand elle vient au boulot, elle doit faire son devoir, son travail administratif. Et elle est infirmière. En plus de ça, elle doit faire ses tours de garde. Et elle est travailleur, travailleuse. Donc, après tout cela, il faut qu'elle aille encore dans le syndicat pour aller davantage se former. Maintenant, on lui demande de faire davantage dans 5 ans. Elle dit, son mari lui dit: si elle veut aller faire une spécialité en infirmerie, le jour où elle part en études, qu'elle ramasse ses effets, elle va déposer chez ses parents. Comme ça, si elle revient de l'étude, elle reste carrément chez ses parents et lui, il va épouser une deuxième femme. Vous comprenez à quel point travailler même est difficile. Maintenant, faire carrière dans la fonction que vous avez pose un problème. Combien de femmes aujourd'hui peuvent faire carrière dans les fonctions qu'elles occupent? Au Tchad, ce n'est pas possible. Parce qu'à côté des besoins élémentaires sociaux de ta famille, tu dois être là pour apporter ces soins parce qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Et tout le travail du ménage, c'est à toi de le faire. Les soins, ça, hormis le fait que tu dois encore t'occuper de tes parents ou de tes grands-parents ou bien d'une personne malade dans une situation sanitaire de longue durée. Et que tu dois lui apporter les soins nécessaires. Donc, c'est déjà difficile pour avoir le travail, finir d'abord les études, avoir un travail et également faire carrière. Quand vous voyez les statistiques chez nous, très peu de femmes, on n'a pas assez de femmes doctorantes. Les femmes docteurs au Tchad, moi, j'en connais même pas beaucoup. Je peux même à peine vous les citer trois. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas aller prétendre aller jusqu'au doctorat et faire une thèse et dire qu'effectivement, elles ont fini sans difficulté. Il n'y en a pas. Maintenant, quand vous travaillez pour faire carrière, il y a des obstacles. Parce que accéder à un poste de responsabilité, dans les mentalités, c'est que les femmes n'ont pas droit à cela. C'est comme si ça apportait un prestige. Ou bien ça apportait plus d'humanité à la personne d'être chef à la place des femmes. Et pourtant, une femme qui est responsabilisée, les femmes sont très travailleuses. Elles sont très subtiles, elles sont très ingénieuses, très intelligentes, au point où les responsabilités qu'on leur donne, elles peuvent avoir plusieurs tâches et le faire au même moment. Elles sont très dynamiques. Donc, quand on responsabilise les femmes, c'est des femmes capables. Mais très peu sont responsabilisées. Ou bien, par exemple, à l'exemple de la dame, j'ai demandé, après 5 ans, quelle carrière va-t-elle faire? Imaginez, À son chef, on donne une chaise bien confortable. À elle, on donne un petit banc. Parce qu'on trouve que c'est elle l'adjoint. Et pourtant, c'est elle qui fait le plus grand boulot. En quoi est-ce qu'une chaise, la femme s'asseoir sur une chaise peut augmenter ou diminuer sa personnalité? Ou bien affecter les services, ou bien l'autorité qu'elle fait? C'est parce que les gens ne veulent pas. Et particulièrement les hommes. Chez nous, aujourd'hui, lorsqu'on voit des femmes qui sont responsabilisées, les gens commencent seulement à les taxer de n'importe quoi. Oh, elle va rendre la vie difficile aux femmes. Elle n'aime pas les femmes. Elle n'aime pas ceci. Elle va utiliser le pouvoir pour elle seule. Mais non. Quand on prend dans les partis politiques, combien de partis politiques aujourd'hui mettent en avant les femmes? Ou lorsqu'il y a des élections, même si elles ne sont pas objectives, lorsqu'il y a des élections, mettent en tête de liste des femmes ou bien des jeunes filles pour leur permettre de déposer leur candidature. Parce que c'est l'homme qui a créé son parti politique et la réponse qu'il donne toujours, c'est que j'ai créé mon parti politique pour moi. Donc, si tu veux, tu vas créer ton parti politique en tant que femme pour accéder au poste de responsabilité, aux responsabilités. Au Tchad, on est allé même plus loin. Le gouvernement a pris même un décret pour donner la parité aux femmes. 50% à l'accès au poste de responsabilité aux femmes. 50% pour les femmes, 50% pour les hommes. Je dis, c'est bon, c'est un bon début. Mais quand on prend dans la pratique, quels sont les moyens que l'État a investis dans le système éducatif qui sont favorables aux femmes pour les permettre d'avoir de longues études et arriver à un poste à un niveau intellectuel élevé ou bien à un poste de responsabilité élevé? Parce que si on demande, on veut responsabiliser deux docteurs en mathématiques, on va trouver le docteur en mathématiques, mais on va pas trouver la docteure en mathématiques. Parce que l'école a été favorable au docteur en mathématiques depuis le scolaire jusqu'au supérieur. Par contre, la docteure en mathématiques, elle a interrompu son cours au CM2 ou bien en troisième pour aller en mariage forcé. Et qu'elle se retrouve après faire des formations professionnelles juste pour pouvoir s'occuper de sa famille. Ou soit elle se retrouve dans un village en train de cultiver tout simplement. Les femmes au Tchad sont des femmes très fortes. Parce que au vu même de ces pesanteurs sociales et culturelles, elles sortent la tête de l'eau. Elles sont très nombreuses. Et elles font bouger les lignes au niveau des responsabilités où elles sont. Moi, je fais beaucoup de campagnes avec des femmes dans les marchés, dans les étalages. Mais je suis étonnée par le degré de compréhension dont elles font montre. Parce que les gens pensent que pour être instruit, il faut savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Mais non, dans nos langues maternelles, elles sont très instruites. Ce que j'explique en français, elles peuvent te l'expliquer dans leur langue maternelle, mais de la manière la plus élégante, au point où même elles sortent même des critères ou bien elles te relatent des liens directs avec leurs conditions de vie. Une manifestation qu'on avait organisée, une manifestation pacifique contre la chèreté de vie, on a rencontré les femmes vendeuses de légumes. Elles sortent généralement autour de 4 heures. Leur point de rassemblement pour monter le bus parti, c'est autour de 4 heures, 5 heures du matin pour aller. Elles me disent, ma fille, moi je vais laisser mon marché pour aller à la marche. D'accord. Je veux faire la marche avec vous aujourd'hui, mais demain, après-demain. Qui va s'occuper de ma famille? Qui va s'occuper de mes enfants? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir continuer à payer mes charges sociales dans les jours où je suis en train d'aller? Elle parle de l'impact de la marche sur sa condition sociale. A-t-elle besoin d'aller à l'école pour pouvoir savoir que une marche pacifique peut l'impacter positivement ou pas? Tout en sachant la réponse qu'elle donne à la fin pour dire que vous marchez ou pas. Ce gouvernement a mis tout en place pour rester. Donc, c'est pour dire que c'est un travail de fourmi, qu'on ne pourra pas changer les comportements, les mentalités maintenant, mais qu'il faut un long temps. Il faut un temps vraiment assez large pour pouvoir changer les mentalités. Parce que, pour finir, c'est que pour engager une personne dans une lutte citoyenne ou bien dans un combat, ou bien qu'elle s'intéresse à la chose, il faut d'abord changer sa situation. On ne peut pas demander à une personne qui vit dans la précarité d'aller faire une marche contre la précarité. C'est quand même paradoxal. On ne peut pas demander trop ça aux gens parce qu'après, elle va aller, mais les conséquences. Juste même une petite bouteille d'eau pour que la personne puisse boire durant la marche. Il faut être en mesure de le pour, de le pourvoir que de l'engager tout simplement dans la marche. Donc aujourd'hui, il y a des femmes chez nous qui font de leur mieux. Dans nos syndicats, avec par exemple les comités des femmes, nous avons ce que nous appelons le café du leader. On identifie les femmes leaders ou les hommes leaders pour parler à ces jeunes, parce que c'est la catégorie qui n'est pas très engagée, parce que vous voyez, au vu des répressions, au vu de la pression, des mauvaises conditions de vie, de la misère, tout ça, les jeunes ne s'engagent pas. Ils refusent parce que lui, il a besoin de résoudre son problème à l'immédiat. Et de nos jours, les jeunes, ils sont derrière les tablettes, les smartphones. Donc, ces questions-là ne les engagent pas. Ils ne s'intéressent même pas à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler des combats de ces femmes au quotidien ou de ces hommes au quotidien qui font bouger les lignes, là, pour qu'ils apprennent davantage de leur combat. Peut-être même aller en immersion dans l'espace où ils sont pour voir à quel point sont des difficultés. Moi, particulièrement, quand j'avais commencé dans le syndicat, la première élection, le premier congrès qu'on a organisé, on m'a élu président de notre comité des femmes. J'avais à peine 23 ans. Je devrais diriger un comité des femmes où il y avait les femmes de 60 ans, les femmes de 65 ans, 45 ans. De mon âge, on n'était même pas deux. Mais ils disent qu'on a organisé le vote avec une autre dame qui était plus âgée. J'ai gagné le vote. J'ai dit, mais dis donc, moi je fais comment? Et chaque fois quand je me rendais compte que j'avais des pressions au niveau du travail, je n'avais pas assez de temps pour ma famille, il y a le travail syndical qui est très important et qui me prenait tout ce temps, j'étais submergée. J'avais des difficultés. Et aussi que travailler dans le syndicat n'amène que des problèmes. On ne te responsabilise pas. Il y a pas, à la limite même, tu perds même ton travail parce qu'après, on va t'affecter dans des services où tu te tapes tout le boulot. Quand tu entres à 7 h, tu sors vers 17 h, 18 h, paumé, où tu t'épuises. Juste parce que plus tu es chargé au travail, moins tu auras le temps pour aller travailler dans le syndicat et tu ne vas pas t'occuper de ta famille. Donc, tu seras amené à faire un choix. C'est une pression sociale qui est mauvaise, mais on ne te le dit pas. Très subtilement, on te le fait subir, tout simplement. J'ai rencontré une maman qui était la vice-présidente du syndicat des infirmiers du Tchad. Et elle a fait presque 40 ans dans le syndicat. Et je lui ai demandé, maman Rachel, tu as fait comment pour tenir presque 40 ans dans le syndicat? Et elle a commencé à avoir des séances de travail avec moi pour pouvoir me rassurer, me donner quelques stratégies pour m'organiser, par exemple, sur le travail. Et j'ai aimé cette formation parce qu'après, on a développé un programme pour comment gérer son temps. Comment gérer son temps? Parce que il faut également répondre aux besoins du militant. Quand on est dans le syndicat, il faut répondre aux besoins du militant. Donc, comment est-ce que le syndicat peut t'aider, par exemple, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle et dans ta vie syndicale? Il faut trouver le juste milieu pour pouvoir concilier tous ces défis et puis faire la carrière de militant. Parce que on ne devient pas militant, hein? On est militant. Mais il y a quand même des aptitudes et des attitudes qu'il faut acquérir au travers de ces stratégies-là pour se faire une personnalité. Sinon, tu seras manipulable parce que tu vas subir à une telle pression, on va dire, bon, si tu laisses le syndicat, on va te nommer chef dans telle ou telle entreprise. Tu vas voir qu'on va augmenter peut-être un dixième de ton salaire. On te donnera un véhicule de fonction ou bien un petit ticket pour le carburant. Tu vas partir et laisser le syndicat. Il y a par exemple sur le droit des femmes, il y a un élément que j'aurais bien aimé aborder. C'est sur la question, c'est sur les pesanteurs socioculturelles. Aujourd'hui, être femme au Tchad, ça pose des problèmes. Parce que les hommes ne reconnaissent pas l'autorité de la femme et les droits de la femme. On trouve des femmes au Tchad aujourd'hui, par exemple, qui n'ont pas droit à l'héritage. Qui n'ont pas droit à l'héritage parce que, suivant les us et coutumes, on répartit l'héritage suivant les normes coutumières. Mais il y a aussi les normes générales qui sont éditées par des lois qui devraient normalement garantir l'accès à l'héritage pour certaines femmes. Mais même au vu de cela, même au vu de cela, lorsque le partage même est fait, la belle famille peut tout simplement te retirer, on récupère tous tes biens, on te met à la porte, tu te retrouves à la rue avec tes enfants. Et pourtant, ton mari a travaillé durant des années pour assamer toutes ses ressources. Donc, on trouve qu'une femme qui hérite de son mari ne mérite pas. Par contre, le frère qui hérite de son frère peut hériter et laisser la femme de son frère dans la précarité totale. Et même lorsque les gens viennent souvent même en justice, tout ça, c'est difficile. Ils vont même s'opposer aux décisions de justice pour dire que c'est la famille qui a décidé de quel bien. Donc on décide du montant ou bien de la quantité des biens qu'on doit te donner. Donc du coup, souvent, c'est difficile d'argumenter autour parce que déjà être veuve, c'est un problème. Maintenant, la seule chose qui peut t'aider à apporter peut-être l'aide après le départ de ton mari à tes enfants, c'est le peu qu'il reste, qu'il laisse pour toi et les enfants. Mais les parents vont prendre. Et pour certains, par exemple, dans les zones agricoles, il y a le problème de l'accès à la terre. Il y a des cultures aujourd'hui chez nous que on dit c'est l'homme qui hérite et que la femme hérite chez son mari. Donc, normalement, comme dans ma culture, c'est mes frères qui héritent. Donc, si je dois hériter, je dois aller hériter chez la femme, dans la famille de mon mari. Or, dans la famille de mon mari, s'il décède, on dit non. C'est bien là, ça appartient à ses frères. Ou soit que le bien appartient à la famille et que même s'ils vendent pour te donner la part qui revient à ton mari, on ne donne pas. Maintenant, le bien qui, de mon père, je n'aspire pas à cela. Vous pouvez imaginer que une femme aujourd'hui qui n'a pas accès, surtout pour les femmes rurales particulièrement, on sait que c'est des petites agricultrices. Le seul revenu qu'elles ont, c'est de faire un petit champ de maïs ou d'arachide pour avoir un certain nombre de revenus. Mais si tu ne peux pas cultiver, la terre où tu dois cultiver, t'es prise ou on te refuse. Tu ne peux pas être autonome. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, être une femme autonome, c'est seulement avoir le travail. Non. Être une femme autonome, c'est qu'il faut avoir une activité qui ne dépend pas de quelqu'un, mais qui peut te permettre d'avoir un revenu permanent et qui ne souffre, dont tu ne pourrais pas, peut-être pas être bousculé dans cela. Donc, si tu peux normalement faire une activité cultivée ou bien faire un travail avec lequel tu peux avoir un revenu, cela pourrait te rendre beaucoup plus autonome. Être autonome n'est pas seulement connaître ses droits et devoirs. Être autonome n'est pas seulement de comprendre comment vit la société. Être autonome, c'est avoir le pouvoir économique. Il faut avoir son propre argent. Imaginez aujourd'hui une femme qui a son propre argent, elle peut décider de se faire belle, de s'acheter un bien, de se soigner, d'inscrire ses enfants à l'école, de payer pour un ensemble de besoins pour sa famille, que d'attendre de la main de l'homme ou bien attendre une certaine pitance qui vient de quelque part pour dire que non, on t'apporte une certaine aide ou bien tu souffres, on te donne ça. Donc pour rendre autonomes les femmes, il faut leur donner le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est qu'il faut qu'elles disposent d'un revenu, permanent, qui leur permet de vaquer à leurs activités. Ne pas le dire seulement dans la bouche, mais il faut leur donner.